marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Eh bien, vous l'entendez, les étudiants scandent De Gaulle assassin. Je vous rends l'antenne. À tout à l'heure.
À chacun son mais aujourd'hui, chose vue par Jean-Louis Bourlange.
S'il n'y aurait pas de patron, comment ton papa serait payé ?
Sécurité sociale.
Oui, mais écoute, il faut bien des patrons. Tous les gens, tous les ouvriers, pas de patron. Il faudrait tous. Bon, eh ben, je veux. Toute ma vie, je veux être payé sans travailler, peut-être. C'est ça, ah bah, non ? Ah bah non. J'ai entendu une dame, elle disait que si elle avait une plus grosse voiture que celle qu'elle a, elle foncerait dans tous ceux qui se réunissent sur le trottoir.
Chose vue par des élèves d'une école Freinet. On se souvient peut-être de la chronique de la Révolution de 1848 que tint Victor Hugo. Cela s'appelait aussi « Chose vue ». En mai, la statue de Victor Hugo dans la cour de la Sorbonne était peinte en rouge. Il n'y avait plus de privilèges pour les grands auteurs. Certains disaient même plus d'auteurs du tout. Chacun pouvait donc prétendre composer son volume propre de choses vues. Jean-Louis Bourlange, par exemple. Il faisait ses études comme ceux qui en avaient les moyens pouvaient encore le faire à l'époque. À Sciences Po et à la fac de lettres, sans être consigné dans un couloir, à son rythme, en dilettante peut-être, il allait d'un point à l'autre de la capitale, à pied, ou assis sur cette étrange monture qu'on appelait à l'époque un solex, à ses risques et périls d'ailleurs. Mais, disait Rosa Luxembourg, une journée de grève générale vaut des mois de formation. Jean-Louis Bourlange, en dépit de sa jeunesse, disposait d'un privilège. Il pouvait pénétrer dans certains lieux de pouvoir, très dévalué, il est vrai, à l'époque, au ministère de l'Intérieur, au risque de passer pour un traître, ou à l'Assemblée nationale, où il siège maintenant. C'est qu'il était gaulliste. Oui, mais gaulliste de gauche. Il y avait donc des gaullistes de gauche. C'étaient des êtres assez tourmentés pour imaginer, en pleine révolte étudiante, que le général restait un jeune maître S-rébellion. Les méchantes langues insinuaient qu'ils étaient juste là pour épicer la mauvaise cuisine que servait Georges Pompidou. Les clous de girofle du gaullisme, en somme. En réalité, les gaullistes de gauche étaient au supplice. De partout, on les regardait de travers. Jean-Louis Bourlange semblait bagnaudé, mais en fait, il marchait, habité par cette terrible question. Jusqu'où peut aller, en mai, un gaulliste de gauche, s'il veut rester gaulliste, et paraître de gauche ?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun, sur France Inter.
Jean-Louis Bourlange, bonjour.
Bonjour.
Alors maintenant, vous êtes député d'un grand parti.
Le Modem.
Oui, un groupe parlementaire de près de 50 personnes.
De près de 50, oui. Avant, j'étais quand même proche d'un plus grand parti encore, du parti gaulliste.
Oui, mais moi, je voulais vous rappeler votre passé déjà groupusculaire, gaulliste de gauche. C'était pas un groupuscule, c'était plusieurs groupuscules.
Je crois qu'on comprend le gaullisme de gauche qu'à la condition de comprendre qu'il faut mettre des traits d'union entre gaullistes et deux, et entre deux et de gauche. Ce n'est pas des gaullistes qui sont de gauche, c'est des gaullistes de gauche. C'est un ensemble particulier, une tribu, comme vous le rappeliez, une tribu composée d'individus qui viennent pour beaucoup de gauche, pour quelques-uns du centre, et pour quelques-uns également de droite, et même de la droite de la droite. On avait, par exemple, Debut Bridel, dont personne ne se souvient plus, mais qui avait été très proche, à la fin de la Troisième République, d'André Tardieu. André Tardieu, grand réformateur, mais grand réformateur de droite de la Troisième République. Donc on avait... C'était un assemblage, on dirait, de gens qui avait plusieurs caractéristiques, qui étaient protestants, juifs, homosexuels, ivrognes...
Je ne sais pas combien de qualités...
Et tout ça étant absolument cumulable. Mais la caractéristique fondamentale, c'est qu'ils avaient un rapport à l'écrit, un rapport aux idées, et que tout cela se retrouvait dans cet hebdomadaire extrêmement sympathique, qui était animé par Frédéric Grindel, et qui s'appelait Notre République. Et on se retrouvait, qui était juste à côté de chez moi, et donc j'allais tous les jours à Notre République, qui était le foyer de cette organisation.
Je ne sais pas combien des qualités que vous avez énumérées cumulait Louis Vallon, que vous rencontriez donc à côté de notre République. Alors, il demandait au café où vous aviez vos bonnes habitudes pour le jeune homme du Champagne. C'était vous, oui, le jeune homme. Et lui voulait une grenadine.
Louis Vallon avait été député de Sarcelles entre 62 et 67. Il s'avait été un formidable rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Puis, mais il ne foutait pas les pieds dans sa circonscription. Et en 67, il y est allé pour la première fois depuis 5 ans. Il s'est aperçu que ça avait beaucoup changé.
Sarcelles.
Et il a été, évidemment, les élections de 67 ont été difficile pour la majorité sortante, il a été battu. Et entre 67 et 68, on lui avait donné un tout petit bureau, mais alors vraiment, où il se cassait les pieds comme un rat. Et j'arrivais vers 16h30, et il me voyait, il disait « Ah, voilà le jeune homme, nous allons aller goûter ». Et il demandait un jus d'orange pour moi et un quart de champagne pour le jeune homme. Et à ce moment-là, il faisait comme le capitaine Chester avec le capitaine Haddock dans l'Étoile mystérieuse, il buvait une goutte de jus d'orange, il mettait du champagne, il remettait du champagne. Au bout de 5 minutes, tout était vide et il appelait le garçon en disant « Le jeune homme a bu tout son champagne, une autre !»
Alors, plus sobre était David Rousset qui, lui, était encore député et dont le fils, Pierre, qui était un leader de la jeunesse communiste révolutionnaire, avait été blessé sur les barricades. Mais c'est un point de vue plus général qui l'inspire dans cette réflexion de haute volée.
La jeunesse en Europe a fait sécession. Et à l'intérieur de cette jeunesse, la force dirigeante et la force de frappe, partout, ce sont les étudiants, et ce n'est pas pour rien. C'est l'irruption d'une nouvelle génération révolutionnaire. C'est un phénomène d'une importance historique considérable. Quant à moi, je soutiens que c'est la seconde vague révolutionnaire en Europe après la première vague qui s'est produite en 1917. Or, il ne s'agit pas du tout, comme parfois on le dit, d'une protestation romantique à l'égard du régime établi. La protestation romantique, ce sont les hippies. Et ils peuvent avoir d'ailleurs des choses fort intéressantes à nous dire. Ces jeunes gens se veulent politiques, veulent une action politique. Or, ce qui est important, c'est que l'irruption de cette jeunesse sur la scène a effacé les divisions profondes de l'Europe d'après-guerre. Aussi bien à Prague, à Varsovie, qu'à Rome et qu'à Paris et qu'à Madrid, c'est cela qui est très important, ils contestent à la fois la société capitaliste dans laquelle les uns sont nés et la société bureaucratique stalinienne dans laquelle les autres sont nés. Et c'est cette contestation commune aux uns et aux autres qui a brusquement fait que l'Europe est redevenue unie, un champ d'action unifié.
Bah, il fallait un gaulliste de gauche comme lui pour penser qu'un même souffle de vie, je le cite, animait les étudiants de Paris et ceux de Prague, les premiers se préoccupant peu de ce qui se passait de l'autre côté du rideau de fer.
Je ne sais pas, j'aimais beaucoup David Rousset, je me rappelle très bien, il arrivait au journal avec un véritable cahier de cuisinière, il faisait des articles écrits avec d'énormes lettres et des articles de 70 feuillets, en fait c'était des trucs, à chaque fois ce pauvre Grindel essayait de faire rentrer tout ça dans le journal, c'était très difficile. Mais je trouve ce texte formidable. On voit bien, alors là, on mesure pleinement. D'abord, on voit, il faut se rappeler qui est David Rousset. David Rousset, c'est quand même quelqu'un qui a porté, qui est issu de l'univers concentrationnaire, qui l'a décrit, qui l'a condamné, et qui a refusé le système stalinien. Il a été honni par l'ensemble de la gauche sartrienne, bolchevique, etc., parce qu'il a refusé, justement, le système du goulag. Donc, et là, on voit bien que c'est un peu de lui qu'il parle, quand il dit qu'on conteste à la fois le capitalisme et le système bolchevique. Je crois qu'il a totalement raison de dire que c'est un mouvement international. Vous dites que les gens de Prague ne voyaient pas ce qui se passait à Paris. Tout le monde voyait tout. On avait eu quelques semaines plus tôt, on avait eu les énormes manifestations en Allemagne avec l'accident terrible de Rudi Dutschke. On avait les mouvements californiens, on avait tout cela. Et on avait donc quelque chose qui saisissait. Il a raison de dire que c'était comparable à 1917. Et en réalité, c'est bien de là qu'est partie la mise en cause du mouvement communiste international. Moi, je crois que de Danny Cohn-Bendit jusqu'à Vaclav Havel et, dans un autre registre, Lech Wałęsa en Pologne, c'est de là que c'est parti, ce mouvement qui allait mettre en cause le système bolchevique. Et alors là où David Rousset, je dirais pas se trompe, mais est un peu à côté de l'affaire, c'est que ce qu'on voit bien, c'est que là, cette révolution, ce caractère révolutionnaire est en fait extrêmement superstructurel, car en réalité, c'est bien la révolution de la liberté, dans sa double dimension libertaire et libérale, qui est derrière mai 68.
Posons-nous un instant, Jean-Louis Bourlange. Il ne faut pas imaginer les gaullistes de gauche unis autour d'une coupe de champagne. Ils sont divisés sur beaucoup de questions, Israël, l'Europe. Et puis, Pompidou. Mais c'est un homme-ventre, disent certains gaullistes de gauche. Il empêche le gaullisme de retrouver sa vraie nature qui est révolutionnaire. Et certains députés gaullistes de gauche, je pense à René Capitan, David Rousset a évité cette tentation, ont imaginé qu'à l'occasion du premier vote de censure, une motion de censure avait été déposée par la gauche, eh bien, ils feraient défection. Un seul est allé jusqu'au bout, le 22 mai 1968, Edgar Pisani, qui avait quitté le gouvernement l'année d'auparavant.
Je voterai la censure. Je n'autorise personne à m'applaudir. En quittant le gouvernement il y a un an, j'ai proclamé à mes dépens mes refus et mes craintes. Il y a 15 jours, j'ai dit au ministre de l'Éducation nationale les raisons de l'angoisse qui m'étreignait. Ce qui s'est produit depuis m'a irrévédiablement, irrésistiblement écarté de vous. Suivant la tradition française, je suis l'élu de toute la nation. Mais je dois aussi des comptes à mes électeurs angevins. Je démissionnerai donc de mon mandat après avoir voté. Tel est le sens que j'ai de la démocratie, du fonctionnement des institutions et de la morale politique.
Edgar Pisani, le 22 mai, alors avant d'y siéger, vous aviez déjà vos entrées à l'Assemblée nationale et vous avez assisté à plus d'une séance.
Oui, j'ai assisté. Je voudrais relever quelque chose que vous avez dit. Pisani ne fait pas partie de la famille gaulliste de gauche. C'est un homme remarquable. Hein, et il a fait la loi d'orientation agricole de 62. Il a fait beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Mais il n'était pas dans la famille. Et ça explique. Capitan et Vallon... c'était vraiment la famille. Et ils étaient, avec le général de Gaulle, dans une relation absolument passionnelle. Et leur rapport à Pompidou est un rapport d'enfant jaloux. En réalité, Louis Vallon avait à peu près, cher Jean Lebrun, autant de cheveux sur la tête que vous. Peut-être même un peu moins. Et ça n'empêche que quand il allait voir le général de Gaulle, il allait chez le coiffeur. Vous voyez, ils étaient dans une relation c'était fascinant. Il allait voir l'homme qu'il aimait par-dessus tout. Donc, il y avait tout un climat passionnel. Tandis que Edgar Pisani, là, on le voit bien, raisonne d'une façon à la fois assez responsable, puisqu'il dit, il rompt le contrat, mais en même temps, il dit qu'il va démissionner. Enfin, comment de Gaulle, quand on voit le journal de Focard, qui est très intéressant sur mai 68, on voit absolument que de Gaulle ne lui pardonnait pas. Il a été à ce moment-là voué aux gémonies.
Le 23 mai, de Gaulle est encore en Roumanie. Un immeuble du gaullisme, rue de Solferino, l'immeuble historique du général de Gaulle, est attaqué par les étudiants qui envoient des boulons avec des frondes. Charles Pasqua se défend, lui, il envoie de l'eau avec des bouteilles autour. Le 24 mai, le général de Gaulle rentre de Roumanie et il veut défendre une idée qui est chère aux gaullistes de gauche, l'association Capital Travail, la participation avec un grand P. Et il s'exprime ainsi à la radio et il est entendu sur les barricades parce que cette nuit-là, il y a encore des barricades à Paris.
J'ai décidé de vous mettre au suffrage de la nation un projet de loi par lequel je lui demande de donner à l'État et d'abord à son chef un mandat. M'ont imposé en plusieurs graves occasions le devoir d'amener notre pays à assumer son propre destin afin d'empêcher que certains ne s'en chargent malgré lui.
Je suis prêt. Le gouvernement gaulliste, parti populaire, de chômage et de misère.
Cette nuit-là, Jean-Louis Bourlange a enfourché son Solex, peut-être légèrement inquiet. Il est rive droite. Il va justement chez un de ses camarades qui est au ministère de l'Intérieur, où on veille jusque très tôt le matin, parce que cette nuit a été particulièrement chaude. Mais ce vélo Solex, au fond, là, avec ce jeune homme bien mis, là, du côté de l'ambassade américaine, qui prétend s'appeler Jean-Louis Bourlange et qui dit qu'il va au ministère de l'Intérieur. Des policiers sont là en faction qui l'arrêtent.
Oui, enfin, c'est une erreur judiciaire auprès de laquelle l'aventure de Monsieur K dans le procès de Kafka est une plaisanterie. C'est-à-dire, donc, j'étais très lié au mouvement gaulliste, donc qui se trouvait 123 rue de Lille, et nous étions avec Jean Charbonnel, avec un certain nombre de gens à essayer d'analyser les retombées de ce discours du général de Gaulle, qui a été un discours dont il a dit lui-même qu'il avait frappé à côté de la plaque. Et j'avais un ami qui était Paul-Marie de Lagorce, biographe du général de Gaulle, et qui était au cabinet de Christian Fouché. Et je l'ai au téléphone, et on me dit, venez me voir. À ce moment-là, je prends mon Solex, m'apprête à prendre les Champs-Élysées, et je suis, à ce moment-là, poursuivi par un motard. Un autre flic s'arrête derrière moi, et me donne quelques coups de matraque. Bon, et j'ai été arrêté comme ça, sans aucune raison, et je suis resté 14 heures.
Les poches pleines de tracts.
Oui, alors évidemment, j'étais à Sciences Po, je prenais des tracts. Alors le lendemain, je suis encore resté 7-8 heures à Beaujon. J'ai été libéré le samedi après-midi. Alors avec ce sentiment, il y avait un type qui me disait, tu verras, ça t'arrivera pas souvent dans la vie, ça te fera du bien, tu te rappelleras ça longtemps. Il avait raison. Et en réalité, ce qui était très très troublant, c'est que je n'avais absolument aucune raison d'être là. Et en même temps, j'étais tout à fait solidaire de tous les camarades qui étaient là.
Oui, sauf que, à la différence des camarades qui étaient là et qui sont restés sur le pavé, vous aviez votre rendez-vous.
Ils ont tous été libérés quelques heures. J'ai été libéré comme ça avec plein d'autres. Hein.
Vous aviez votre rendez-vous au ministère de l'Intérieur. Et puis d'ailleurs, Christian Fouché passait par là.
Oui, le lendemain. Le lendemain, quand je suis sorti, j'ai appelé Lagorce et il m'a dit, venez me voir demain. Et je suis allé le voir. Je suis allé le voir dans son bureau au ministère de l'Intérieur à 5h de l'après-midi le dimanche. Et on est tombé sur Christian Fouché. Alors, on voit, c'est quand même quelqu'un qu'on avait vu d'autres, Fouché. Hein. Il avait fait l'Algérie, la rue de l'Isly, Rocher Noir, c'était autre chose, hein, comme violence, etc. Et il m'a dit, ah oui, alors je lui ai raconté mon histoire, il m'a dit, ah oui, on ne peut pas les tenir, mais ils s'en foutaient complètement. Et on était tous obsédés par l'idée de la négociation qui allait commencer entre Pompidou et la CGT au même moment à Grenelle.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Je m'appelle Catherine.
Jérémy, je te trouve très belle.
Mais pas en état de faire l'amour.
Mais le monde est en train de changer, c'est qu'un début. Et si la Sorbonne devient un nouveau Nanterre, non, ça prouve qu'on peut aller plus loin. Demain, c'est les ouvriers qui vont rallier le mouvement. Et alors, là ?
Tu trouves pas qu'on a de la chance d'avoir l'âge qu'on a ? Que ce soit maintenant et qu'on soit ensemble.
Peut-être, j'en sais rien, Caroline.
Chacun son mais, Jean-Louis Bourlange, aujourd'hui, vous vous souvenez de Beaujon, et vous vous souvenez d'un grand moment amoureux?
Non, j'étais vraiment un peu cato coincé. Comme beaucoup de cato coincés, j'avais une petite amie qui était une grande amie, c'est-à-dire une femme de façon assez macronienne façon, c'est-à-dire une femme qui avait 20 ans de plus que moi, que j'aimais tendrement. Mais pour le reste, j'étais vraiment assez inhibé et assez et donc je n'ai absolument pas participé. Et je dois dire, quand j'y réfléchis rétrospectivement, avec pas mal de frustration. J'aurais bien aimé aller à l'Odéon, faire tout ça, etc. Je pouvais pas. C'était pas mon genre. J'en étais pas capable.
De Gaulle est revenu, il a parlé, il a échoué, mais il va prendre l'initiative d'un départ, laissant sidérer les ministres et le Premier ministre lui-même. Et à l'issue d'un voyage qui est longtemps resté mystérieux et qui l'a mené à Baden, il intervient le 30 mai. Et aussitôt va suivre une manifestation dont nous verrons si vous y avez participé.
Françaises, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas.
Je ne démissionnerai pas. Je ne démissionnerai pas.
Pierre Chaunu.
C'était fini, c'était gagné. Bon, ce simple mot, si vous voulez, les gens attendaient, c'était le contre-choc. Parce que de toute façon, le 30 mai, ils en avaient marre tous. Hein. Tous en avaient marre, ça avait cessé d'amuser par tout le monde. Mais on savait très bien que ce jour-là, c'était gagné.
Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution, à moins qu'on entende bâillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer, en même temps qu'on l'empêche de vivre.
Moi, je me trouve devant le rond-point des Champs-Élysées. Je suis au premier étage du journal Le Figaro, où passe en ce moment, si vous voulez, le corps de la manifestation. Les manifestants passant devant Le Figaro crient tous le même slogan, Le Figaro avec nous, Le Figaro avec nous. En tête du cortège, donc, un immense drapeau tricolore frappé d'une croix de Lorraine. Derrière, les associations d'anciens combattants, beaucoup de drapeaux tricolores, Marc Alvarez vous l'a dit, et puis derrière ces drapeaux tricolores, à quelques mètres, si vous voulez, de la tête du cortège, des ministres. Parmi ces ministres, messieurs Debray, Malraux et Schuman. Monsieur le ministre, quel est pour vous le sens de cette manifestation?
Un grand journaliste a écrit récemment, hier ou avant-hier, De Gaulle seul. Nous en faisons la démonstration.
Michel Debray, au sommet de sa forme retrouvée, est-ce qu'un gaulliste de gauche, c'est ça qui a des traits d'union, peut s'associer à cette manifestation?
Ah ben, je me suis associé, en tout cas. J'ai d'abord écouté le discours du général de Gaulle. Il faut se rappeler, les gaullistes, on était pour de Gaulle. L'absence de De Gaulle, je suis d'accord avec ce qu'a dit Chaunu sur un point précis, quand De Gaulle est parti, nous, les gaullistes, les jeunes gaullistes, les vieux gaullistes, tous les gaullistes, nous avons ressenti le vide absolu, la séparation et le besoin de combler ce vide. Et je pense que c'est ça qui s'est passé dans toute la France de droite d'ailleurs, soyons nets, toute la France de droite était frustrée, ne savait pas comment se situer, elle a ressenti et la manifestation a été organisée avant qu'on connaisse le retour du général, qu'on sache la date et le moment du retour du général de Gaulle et qu'on ait entendu son appel. L'appel a effectivement précédé d'une demi-heure, le début de la manifestation, mais il y avait cet immense vide et nous étions très très heureux de voir, de retrouver le sens de tout ça. Le génie, ça a été celui de Pompidou qui a conseillé au général de Gaulle la dissolution. C'est ça, parce que en France,
contre les gaullistes de gauche qui voulaient maintenir le cap sur la participation.
Non, c'est pas contre les gaullistes de gauche. Il fallait trouver une solution, mais le référendum était beaucoup trop césarien, si je puis dire. L'assemblée, le vote d'une assemblée, c'est quand même toujours ce qui permet l'installation de la République. Ça a été la seconde République. République, la Troisième République, la Quatrième République, tout ça vient d'un vote d'une assemblée. Et donc, la rencontre entre ce retour aux sources du suffrage universel collectif et de la satisfaction du père qui revient parmi les siens, ça a été ça l'origine de la manifestation.
Vous accumuliez à l'époque un capital libéral, vous étiez un des rares à lire Tocqueville, et puis vous prêtiez attention à ce que disait Raymond Aron. Raymond Aron a eu une conversation téléphonique avec Kojève, le grand philosophe spécialiste de Hegel, qui est mort quelques heures après cette conversation téléphonique. Nous sommes justement à la fin du mois de mai. Et Kojève lui dit, bon, c'est pas une révolution. Personne ne veut tuer personne, et d'ailleurs personne n'est tué. Kojève, Aron, si vous vous glissiez dans la conversation.
Oui, mais Aron l'a très bien défini en parlant de psychodrame. C'est d'ailleurs une preuve de maturité générale. On doit beaucoup au préfet Grimaud. Hein. Le préfet de police a quand même été un homme de modération. Et puis des leaders comme Danny Cohn-Bendit ou d'autres ont été quand même toujours extrêmement adroits. Tout le monde s'est retenu dans cette affaire et a joué une espèce de chorégraphie révolutionnaire. La révolution à l'état pur, sans vraie violence, mais avec tout l'appareil. Oui, la chorégraphie, tout le ballet révolutionnaire qui s'est organisé pendant des semaines. Mais ça aurait pu tourner mal rétrospectivement. Quand je citais tout à l'heure le journal de Focard, qui est très intéressant. On voit bien que De Gaulle n'a pas été brillant pendant cette période. Il l'a d'ailleurs reconnu après. Il a dit à Madame Massu, le général a failli. Et croyez-moi, je ne suis pas fier de moi. Il a dit ça. Il a eu conscience tout à fait de ne pas avoir été à la hauteur, alors que Pompidou a été à la hauteur. Pompidou a vraiment tenu le choc, tenu, organisé, gardé ce qui pouvait être gardé de l'État, pris des décisions politiques habiles. Mais De Gaulle, on voit dans ses confidences à Focard, il est tenté par la violence. Il est tenté par la violence. Il est tenté par la chienlit, etc. Tout ça. Bon, il résiste grâce à ses conseillers, grâce à lui-même. Donc la sortie a été formidable. Mais c'est la sortie qui a fait que ce n'a été qu'un psychodrame. Et celle qui me paraît avoir dit des choses, vous avez parlé de libéraux, c'est Hannah Arendt. Hannah Arendt était très liée à la famille Cohn-Bendit. Hein. Danny m'a raconté ça. Il l'avait vue au mois d'août après. Il m'a raconté ça 20 ans plus tard, hein, au Parlement européen. Et au mois d'août, elle lui a dit « Bravo petit, c'est bien ce que tu as fait ». Et Hannah Arendt, elle avait deux choses qui l'obsédaient. Elle était fondamentalement anticommuniste, antitotalitaire. Elle avait inventé le concept de système totalitaire. Elle était également antigaulliste. Et elle a parfaitement compris que le mouvement de mai était d'abord un mouvement anticommuniste et antigaulliste secondairement, et que donc c'était l'avènement d'une société infiniment plus libérale, car ce psychodrame révolutionnaire, c'est l'accouchement d'une société libéro-libertaire.
Merci à vous Jean-Louis Bourlange. Cette émission, comme toutes celles de cette semaine, à chacun son mai, était préparée par Frédéric Martin, Ilinka Negulesco, avec le concours de la collection de disques de Martin Penet, la réalisation Audrey Ripouille, à la technique Julien Michel. Mais personne ne voulait tuer personne. Le point sur l'actualité, il est 14h, vous écoutez France Inter.